L'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse de M.G. DeMarco. Édito. Pour devenir riche, deux écoles s'affrontent. La première école est celle de la sécurité. Elle enseigne l'investissement. Pour devenir riche, il suffit d'épargner, d'investir et de recommencer. Dans ce cas, la personne concernée est certaine de devenir riche. La seule inconnue est le temps que cela prendra. Plus la personne sera talentueuse, plus elle réussira et plus elle réussira vite. La seconde école prône un enrichissement massif et rapide. Le livre présenté ci-dessous est la bible des adeptes de cette seconde école. Efficace, mais au résultat bien moins certain. L'auteur est très sévère avec la première école, sûrement parce qu'il n'a pas de bonnes connaissances en investissement. Peu importe, il a le mérite de donner un point de vue certes très tranché, mais intéressant. Alors, êtes-vous un Warren Buffett, première école, ou un Mark Zuckerberg, deuxième école? Et pourquoi pas ne pas tenter d'être un peu des deux? Biographie de l'auteur. Il est difficile de trouver une biographie exhaustive et précise de M.G. DeMarco. Nous ne savons de lui que ce qu'il nous livre dans son ouvrage et sur son site internet. On ne trouve aucune page Wikipédia à son nom, aucun onglet biographie sur les sites où son livre est en vente. Il se définit comme un entrepreneur, auteur et autodidacte devenu millionnaire à 30 ans grâce à une société créée sur internet, limos.com, qui louait des limousines et revendue au bon moment. Résumé. Introduction. L'auteur distingue deux manières de s'enrichir, l'enrichissement lent et l'enrichissement rapide. Il les appelle, par analogie avec les voitures et la route, la voie lente et la voie rapide ou autoroute. Il nous prévient que son style est direct, parfois cynique et souvent provocateur, mais il ne s'en excuse pas, puisque ce ton est fait pour nous faire réagir. En effet, son unique but est de nous donner les clés pour changer notre vie, car sa fortune à lui est déjà faite. Une rencontre décisive. L'auteur nous explique comment une seule rencontre a changé sa vie. Il est issu d'une famille de la classe pauvre américaine. Sa mère était une mère célibataire, employée chez KFC. Lui était un adolescent plutôt obèse, qui passait le plus clair de son temps à manger des sucreries en regardant la télé. Il avait peu de perspectives d'avenir. Sa seule passion, les voitures de sport, et plus particulièrement les Lamborghini. Un jour, alors qu'il sort se réapprovisionner en crème glacée, il voit la voiture de ses rêves sur le parking d'un supermarché. Une flamboyante Lamborghini Countach. Son propriétaire a 25 ans. M.J. DeMarco en reste bouche bée. Il se demande comment un homme si jeune peut conduire une telle voiture. Sortant de sa torpeur, il ose aller lui demander ce qu'il fait dans la vie pour pouvoir s'acheter ce genre de bolide. Le jeune homme lui répond « Je suis inventeur ». Cette rencontre fut une révélation pour M.J. DeMarco. Il comprend ce jour-là que l'on peut devenir riche jeune et qu'il existe des moyens rapides d'y parvenir, autres que le sport de haut niveau, la célébrité ou encore le loto. Il décide alors de prendre sa vie en main et met toute son énergie à comprendre comment devenir riche rapidement. Il lit énormément, en particulier les biographies de personnes riches qui ont créé des entreprises ou des empires immobiliers. Il va ensuite à l'université et décroche son diplôme. Toutefois, au lieu de commencer à travailler pour de grosses sociétés comme tous ses camarades, il reste chez sa mère et continue de chercher comment devenir riche. Mais il enchaîne les échecs et les boulots mal payés. Tout son entourage finit par le lâcher, pensant qu'il est fou ou feignant. Il fait alors une sévère dépression et poursuit un travail ingrat et chronophage de conducteur de limousine. La dépression persiste et un soir d'hiver, alors qu'il est dans sa voiture à Chicago par un froid glacial, il comprend qu'il doit partir pour ne pas sombrer plus bas encore. Il a besoin de soleil et fait ses bagages pour Phoenix, en Arizona. Il quitte tout avec seulement 900 dollars en poche. Arrivé à Phoenix, il vit avec rien, dans un microscopique studio, mais il reprend goût à la vie car il sent qu'il a enfin repris le contrôle. Il réalise alors, grâce à son expérience de chauffeur, que ses clients avaient tous le même besoin, trouver rapidement, où qu'il se trouve, une limousine pour se déplacer. Profitant de la naissance d'Internet au début des années 90, il crée un site de location de limousine qui présente les différents services avec leurs prix, leurs avantages et les avis clients, une sorte d'annuaire national des services de location de limousine. Au départ, son site fonctionne bien et certaines entreprises lui demandent de créer le leur. Il accepte, car il doit bien payer son loyer et ses factures. Mais il se rend rapidement compte que cela lui prend beaucoup trop de temps. Il prend alors conscience qu'il fait fausse route, car il vend son temps contre de l'argent. Or, ce qu'il cherche, c'est avoir du temps libre, mais que l'argent continue à tomber. Il cesse de créer des sites internet pour les autres, mais perfectionne le sien. Il travaille plus de 60 heures par semaine. Petit à petit, son entreprise connaît un beau succès et on lui propose de la lui racheter 1,2 million de dollars. Il accepte. Mais il croule sous les dettes et une fois tout payé, il lui reste péniblement 300 000 dollars. En parallèle, la société qui a racheté son site internet prend quelques mauvaises décisions et perd de l'argent. Les repreneurs cherchent alors à se débarrasser de cette entreprise. Comprenant qu'il a fait une grosse erreur en vendant son site, MJ DeMarco leur rachète pour 250 000 dollars. À partir de ce moment-là, il passe à la vitesse supérieure et travaille encore plus sur son site. Petit à petit, son site finit par générer seul de l'argent. Il l'appelle son arbre à fric, car il produit des revenus sans rien faire, grâce au travail qu'il a fourni auparavant. Ainsi qu'il soit malade ou en vacances, l'argent tombe. Il revend sa société, cette fois pour plusieurs millions de dollars. Il devient alors multimillionnaire à 33 ans et part tranquillement à la retraite. La richesse n'est pas une route, c'est un voyage. Tout au long de son ouvrage, MJ DeMarco compare le chemin vers la richesse à un trajet en voiture. La voiture, c'est nous. Le carburant, c'est notre énergie et notre capacité à nous fixer et à atteindre nos objectifs. Les routes sont de plusieurs types. Il y a celles, étroites et lentes, qui mènent vers un certain confort, au mieux bourgeois, c'est le salariat. Et il y a celles, comme les autoroutes, qui mènent vers la richesse, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement. La vitesse représente notre capacité à concrétiser nos idées et à prendre des risques. Il compare. Vous avez beau avoir une Ferrari, si vous n'appuyez jamais sur l'accélérateur, vous n'avancerez pas. Comment être pauvre et le rester ? Qu'est-ce que le chemin de la pauvreté ? Selon MJ DeMarco, le chemin de la pauvreté est celui qui est emprunté par la plupart des gens. Pour lui, c'est le chemin de ceux qui ont besoin de voir leurs désirs satisfaits immédiatement. Leur envie de consommer est telle et leur contrôle est si faible qu'ils consomment autant qu'ils gagnent, parfois même plus en ayant recours au crédit à la consommation par exemple. À la moindre augmentation de salaire ou prime inattendue, ces personnes ne vont pas mettre cet argent de côté, mais plutôt acheter le dernier écran plat ou le dernier iPhone. Vous les entendrez par exemple dire « Qui sait si je serai encore en vie dans 10 ans ? Profitons-en, on ne va pas m'enterrer avec mon argent. » Selon l'auteur, que ces personnes gagnent 1000 ou 100 000 dollars par mois, le problème sera toujours le même, car le besoin de satisfaire leurs envies immédiates les pousse à consommer sans modération et sans contrôler leurs dépenses. On peut être pauvre même en gagnant 40 000 dollars par mois si on dépense plus que ce que l'on gagne. Il en conclut que le problème vient donc de la discipline et de la gestion financière. Selon l'auteur, ceux qui ont cette vision de leurs finances rejettent la responsabilité de leur situation sur les autres. Les entreprises qui licencient, le gouvernement qui n'aide pas. Mais pour lui, c'est en réalité leur état d'esprit qui les conduit dans cette situation. Une définition de la richesse. Selon MJ DeMarco, la plupart des gens définissent la richesse comme la possession matérielle, voiture de luxe ou villa. Mais selon lui, c'est avant tout la possibilité d'avoir trois choses importantes. La santé, la famille et les amis, et la liberté. Il écrit la phrase suivante. La richesse ne s'achète pas en 60 mensualités. D'autre part, il fustige le fait que beaucoup de gens ne sont pas riches, mais cherchent à le paraître. Ils ont des voitures, des vêtements de luxe, mais en réalité, tout est acheté à crédit. En plus, pour lui, le fait de posséder et de toujours en vouloir plus a même une influence néfaste sur la vraie richesse, la santé, la famille et la liberté. Il donne l'exemple d'un homme ayant une belle carrière dans l'industrie pharmaceutique. Il achète une superbe villa à 1,8 million de dollars avec piscine, triple garage et salle de cinéma. Mais cette acquisition à crédit le contraint à accepter un poste à responsabilité dans son entreprise. Il est tout le temps sur la route ou entre deux avions et travaille 12 heures par jour. Il ne voit ni sa femme, ni ses enfants, et sa santé se dégrade. Il meurt d'une crise cardiaque à 52 ans, en passant la tondeuse dans le jardin de sa belle villa. Les conséquences d'une mauvaise gestion financière. L'auteur dénonce l'hypocrisie qu'il peut y avoir à claironner que l'argent ne fait pas le bonheur. Sarcastique, il interroge. Est-ce la pauvreté qui fait le bonheur ? Selon l'auteur, l'argent ne fait effectivement pas le bonheur s'il nous enferme dans un cercle vicieux de contraintes. Mais pour lui, la vraie richesse est la liberté. Finalement, que signifie être riche ? Selon lui, c'est pouvoir s'acheter quelque chose sans que cela n'affecte vos finances. Il prend l'exemple d'un paquet de chewing-gum. Quand on l'achète, on ne se demande pas si on en a les moyens. Et une fois acheté, on ne le regrette pas, même si on se retrouve sans travail, parce que cet achat n'aurait de toute façon rien changé dans notre équilibre financier. Être riche, c'est cela, selon lui. Une question de chance. La plupart des gens regardent les riches en se disant qu'ils ont de la chance. Mais, selon l'auteur, cela n'a rien à voir avec la chance. Tout est une question de travail, de sacrifice et de volonté. L'auteur pense que nous nous laissons aveugler par la réussite de personnes célèbres, comme les stars de foot ou de cinéma. On ne voit que les gros contrats, les transferts à plusieurs millions. Mais peu de gens voient le chemin pour y parvenir. Les sacrifices, les entraînements 7 jours sur 7, la vie loin des siens, les soirées et les week-ends à travailler pendant que les autres s'amusent. Si vous attendez que la richesse arrive grâce à la chance, loterie, loto, casino, vous n'enrichirez que ceux qui vendent ce rêve. Il explique que si on lui avait mis entre les mains la Lamborghini de ses rêves à 16 ans, il n'en serait jamais arrivé là où il en est. Car c'est précisément la poursuite de ce rêve qui lui a insufflé le bon état d'esprit pour créer son entreprise et bâtir sa fortune. Quand on vous donne les choses sans que vous ayez à fournir de travail pour les obtenir, vous échouez. Richesse et responsabilité. Un autre élément important empêche la plupart des gens de devenir riches, selon De Marco. Ils n'assument pas leurs responsabilités et confient aux autres les rênes de leur vie. Selon De Marco, pour réussir, il faut à la fois prendre ses responsabilités, mais aussi les assumer. En quoi ces deux choses sont différentes ? Il raconte une anecdote pour expliquer son point de vue. Il a voulu réaliser des travaux chez lui, mais il a engagé un mauvais artisan qui a mis 3 ans à les faire au lieu de 6 mois. Prendre ses responsabilités, c'est dire « C'est ma faute, je n'ai pas vérifié ses références et ses compétences ». La plupart des gens blâmeraient l'artisan sans jamais se remettre en question. Assumer ses responsabilités, c'est apprendre de ses erreurs et de ses échecs, et dans le cas présent, ne plus engager un artisan sans vérifier ses compétences. Il prend également l'exemple d'un syndicaliste qui se plaint de ne gagner que 11 $ de l'heure chez Walmart, alors que la plupart des enseignes payent 13 $ de l'heure. L'auteur réagit en écrivant que c'est aberrant de se plaindre pour ça. Si ça ne lui convient pas, qu'il aille travailler là où il sera mieux payé. Il lui dit « Bouge-toi au lieu de te plaindre et de jouer sans cesse la victime ». L'auteur fustige ce genre d'attitude qui ne fait que demander aux autres de faire plus, sans chercher soi-même comment faire pour obtenir plus. Il écrit qu'auparavant la devise des Américains était « Donnez-moi la liberté ou la mort », mais qu'aujourd'hui la devise serait plutôt « Donnez-moi tout court ». Selon lui, il faut cesser de se considérer sans cesse comme une victime. Si notre situation financière ne nous convient pas, il faut tout faire pour la changer, sans attendre que ce soit les autres qui le fassent à notre place. Pour reprendre la métaphore de la voiture, il nous invite à reprendre le volant de nos vies. La voie lente de la richesse, une solution médiocre. L'imposture. L'auteur explique qu'en grandissant, nous créons une famille, des responsabilités, et nous passons souvent de la pauvreté à une situation intermédiaire qu'il qualifie de médiocre. Cette situation, qu'il appelle la voie lente, est la suivante. Avoir un diplôme, un bon travail, économiser un maximum, placer ses économies dans des fonds de pension et prendre sa retraite à 65 ans, à peu près à l'aise financièrement. L'auteur s'insurge contre ce modèle qui est communément admis comme la bonne solution. Pour lui, ça ne tient pas la route pour une raison évidente. C'est lorsqu'on est jeune et en bonne santé que l'on doit pouvoir profiter de sa richesse. Il a cette phrase drôle et pertinente « Un fauteuil roulant ne tient pas dans le coffre d'une Lamborghini ». Il trouve terrifiant que les gens acceptent de se soumettre à travailler 5 jours par semaine pour avoir droit à seulement 2 jours de week-end. C'est aberrant, c'est comme accepter un placement à moins 60%. L'échange frauduleux. Ici, l'auteur est catégorique. Si vous voulez devenir riche, ne soyez pas salarié. En effet, le salariat vous enlève 2 choses qui sont essentielles à la construction d'une fortune. L'effet de levier et le contrôle. Il n'y a aucune garantie dans la voie lente, parce que, selon l'auteur, vous ne contrôlez rien, ni votre temps, ni le rendement de vos investissements. Or, pour être riche, il faut avoir le contrôle. De l'inutilité des études. Selon De Marco, faire de longues et coûteuses études est inutile. Et il explique pourquoi. Tout d'abord, il estime que les études supérieures coûtent cher. Plus vous empruntez pour faire vos études, plus vous êtes contraint de trouver rapidement un travail. Vous vous condamnez à vendre votre liberté pour un travail asservissant, pourvu qu'il rembourse les dettes contractées pour vos études. De plus, cela restreint vos options, car, sur le marché du travail, vous serez souvent soit sous-diplômé, soit surdiplômé. Une étude de 2007 révèle qu'en licence, un étudiant américain a cumulé 45 000 $ de dettes en moyenne, et ce, avant même de travailler. Cette dette le force à entrer sur le marché du travail et à trouver n'importe quoi pour la rembourser. Le mensonge des menteurs de la finance. L'auteur invite à la méfiance vis-à-vis de ceux qui vous dispensent leurs conseils financiers. Il distingue 2 sortes de mentors. Premièrement, ceux qui vous donnent des conseils mais qui n'ont pas 500 $ de côté. De Marco estime que celui qui vous donne les conseils doit savoir de quoi il parle. Il donne l'exemple d'une conférence à laquelle il a assisté sur le sujet de l'alimentation saine et un physique sportif. Or, le formateur était obèse. Pour lui, ce n'est absolument pas crédible, il est parti. Deuxièmement, ceux qui donnent des conseils mais dont la fortune personnelle a été bâtie différemment de la manière prônée. L'auteur invite à la prudence car il connaît beaucoup de gourous de la finance dont la fortune a été bâtie grâce aux livres et aux séminaires vendus, mais pas grâce aux conseils qu'ils revendiquent pour les autres. L'espoir. Dans la voie lente classique, votre seul salut est l'espoir, selon De Marco. Espoir de ne pas perdre votre travail. Espoir qu'une crise économique ne vous fasse pas perdre vos économies. Espoir d'arriver en vie et en forme à la retraite et de pouvoir profiter du fruit de vos efforts. Votre seule option pour vous enrichir est de contrôler vos finances en économisant le plus possible. En effet, vos recettes ne peuvent pas augmenter indéfiniment puisque ce n'est pas vous, mais un patron qui définit votre salaire. Mais est-ce cela la vie ? La voie rapide vers la richesse, l'autoroute. L'auteur entre ici dans le vif du sujet et nous livre sa vision de la voie rapide vers la richesse. C'est le contraire de la voie classique puisqu'elle permet d'agir sur ses finances, effet de levier, mais aussi de contrôler sa source de revenus. Pour lui, l'objectif est de parvenir à générer passivement des revenus. Ainsi, l'argent est produit en dehors de votre action directe. Que vous soyez en vacances ou en arrêt maladie, l'argent continue de tomber grâce au travail fourni en amont. Changer de camp. Dans la voie classique, nous sommes le consommateur, mais ce n'est pas la solution. Par conséquent, il faut changer de vision et être celui qui imagine ou conçoit le produit qui sera consommé à grande échelle. C'est notre état d'esprit qui doit changer. Nous devons passer de l'esprit du consommateur à celui du producteur. Des riches, vraiment riches. Pour De Marco, ne sont vraiment riches que ceux qui maîtrisent l'équation. Richesse égale bénéfice net plus valeur des actifs. C'est en ayant la capacité d'agir sur ces variables que l'on peut gagner de l'argent. Nous avons par exemple la possibilité d'augmenter les bénéfices en baissant le coût de production ou en augmentant le nombre d'unités vendues. De plus, la valeur des actifs est directement liée au bénéfice net de l'activité. Par conséquent, en augmentant le bénéfice net, vous augmentez la valeur de l'entreprise. Être entrepreneur, c'est avoir le contrôle et pouvoir augmenter nos revenus si on le décide. On a la main sur toutes les variables, contrairement aux salariés. Attention cependant, ne ratez pas le moment où il faut vendre l'entreprise créée. C'est ce qu'on appelle la monétisation. Il prend l'exemple d'un entrepreneur qui avait créé un réseau social. Son service a très bien démarré et a fait le buzz. La valeur de l'entreprise est montée en flèche et on lui a proposé de la racheter. Il a refusé une offre à 640 millions de dollars, pensant que son entreprise vaudrait encore plus une fois qu'elle générerait plus de revenus. Mais finalement, le buzz passé, l'attrait pour la société a périclité. Quand il se décide à la vendre, on ne lui en propose plus que 2,5 millions. Il a raté le bon moment pour monétiser son entreprise. Le rôle du temps et du contrôle. L'auteur revient sur l'importance cruciale du contrôle. Si vous avez le contrôle, vous pouvez augmenter votre fortune. De la même manière, le temps doit être de votre côté et non contre vous. Imaginons par exemple que vous vendiez des hot dogs. Vous avez un stand au coin d'une rue. Vous vendrez au maximum 150 hot dogs par jour. Mais si vous développez le concept, en l'automatisant et en multipliant le nombre de stands et de rues, alors vous augmenterez les ventes, donc les bénéfices. Et tout cela sans travailler plus. Système de franchise, par exemple. Dans ce cas, le temps travaille pour vous. Vous multipliez vos gains sans rien faire de plus que de mettre en place un système qui travaille pour vous. Selon l'auteur, il existe 5 secteurs d'activité qui génèrent des revenus sans que vous n'ayez à intervenir. Numéro 1, les systèmes de location. Louer des logements, louer un brevet, louer les droits d'une marque. Numéro 2, les systèmes de logiciels informatiques. Par exemple, vous créez une application et ce sont les abonnements qui génèrent le revenu. Numéro 3, les systèmes d'information, comme les blogs, les sites informatifs. Les revenus seront issus soit de l'abonnement, soit de la publicité. Numéro 4, les systèmes de distribution, comme les franchises ou le marketing de réseau. Numéro 5, les systèmes basés sur les ressources humaines, par exemple Amazon et ses entrepôts. Mais ils sont plus complexes à mettre en œuvre, car le fonctionnement de la société repose sur la gestion de salariés. Vos forces pour atteindre la liberté financière. L'auteur explique que pour être riche, il faut jouer sur la quantité. Rappelez-vous l'équation fondamentale. Il y a deux éléments cruciaux, le nombre d'unités vendues et le prix auquel elles sont vendues. Par conséquent, c'est simple. Si vous voulez gagner des millions, il faut vendre des millions de produits et donc toucher le plus grand nombre possible de personnes. Selon De Marco, il y a deux façons de voir les choses, la philosophique et la mathématique. Dans la manière philosophique, on vous laisse croire qu'en y pensant très fort, vos rêves se réaliseront. C'est une supercherie qui n'enrichit que celui qui vous l'a vendu dans un livre. Selon lui, la méthode mathématique est la seule qui vaille. Si vous vendez à des millions de personnes, vous gagnerez des millions de dollars. C'est mathématique. Il résume. Toucher des millions de gens, toucher des millions de dollars. Il prend des exemples. Un rappeur qui vend des millions de disques touche des millions de dollars. Et si J.K. Rowling gagne des millions, c'est parce qu'elle a vendu des millions de livres d'Harry Potter. C'est aussi simple que cela. Votre véhicule vers la richesse, vous-même. Prenez le contrôle. L'auteur expose un principe fondamental. Notre vie est la somme de choix. Pour lui, la pauvreté est la conséquence d'une série de mauvais choix. Mais à partir du moment où on en prend conscience et où on assume sa responsabilité, ce n'est plus une fatalité. Si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas de la faute de Pierre, de Paul ou de Jacques, c'est uniquement la faute des choix que vous avez faits. Il faut avoir conscience que des mauvais choix peuvent changer votre vie et celle des autres à tout jamais. C'est le cas par exemple si vous conduisez sous l'emprise de l'alcool. Il prend aussi pour exemple le film L'effet papillon, sorti en 2003. Ce film montre qu'un seul de nos choix a des répercussions sur toute notre vie et sur celle des autres. L'auteur précise également que plus vous êtes jeune, plus les choix ont un impact fort sur le reste de votre vie. une nouvelle vision des choses. M.G. DeMarco accorde beaucoup d'importance à la philosophie de vie. Pour lui, c'est cette philosophie qui influence nos choix. Si vous pensez que vous ne serez jamais riche, il y a de fortes chances pour que vous ne le deveniez effectivement jamais, car vous n'agirez jamais pour le devenir. Vous ne mettrez rien en œuvre. Ce sont vos convictions qui vont vous donner l'élan pour agir. Si vous voulez réussir, vous devez commencer par être convaincu que vous allez réussir. Il conseille ainsi de commencer à modifier notre manière de parler et de ne plus prononcer des phrases telles que « je crois que, jamais, si seulement ». Optez plutôt pour « je réussirai, je vais le faire, j'en suis capable ». Pour mieux orienter votre prise de décision, il conseille également de vous demander « si je choisis cette option, que se passe-t-il dans le pire des cas ? Quelle est la probabilité que cela se produise ? Suis-je prêt à prendre le risque ?» La réponse à ces questions doit prendre seulement quelques secondes. Son autre astuce consiste à utiliser des tableaux. Par exemple, si vous hésitez entre deux choix, faites une première colonne avec la liste des facteurs qui influencent votre décision. Modérez ensuite chaque facteur en lui attribuant un coefficient qui correspond à l'importance que ce facteur représente pour vous. Dressez ensuite une colonne pour chacun des deux choix. Pour chaque facteur, attribuez une note aux deux choix. Calculez ensuite le total en multipliant la note attribuée dans chaque case par le coefficient correspondant et additionnez les notes finales. L'option qui remporte la plus haute note sera raisonnablement celle à choisir. Par exemple, vous hésitez entre créer votre entreprise à Marseille, choix numéro 1, ou à Lille, choix numéro 2. Les facteurs influençants seront alors l'ensoleillement, coefficient 2, la proximité de la famille ou des amis, coefficient 3, la croissance économique, le local. L'auteur conseille également de ne pas toujours regarder ce que vous avez fait, ou pas fait, par le passé. Ce qui importe se trouve devant. Le seul intérêt du passé est d'apprendre de ses erreurs et de ne pas les reproduire. Savoir choisir son entourage. L'auteur explique que pour réussir, il faut se couper des relations toxiques ou néfastes, mais également s'écarter des personnes qui jugent vos rêves impossibles. Ces personnes toxiques et ces normes sociales sont comme un poids supplémentaire à porter. Soit cela vous empêche d'avancer, soit cela vous ralentit. En réalité, ces personnes vous vident de votre énergie. Mieux vaut vous entourer de personnes positives, qui partagent votre point de vue et votre vision des choses. Ces personnes-là sont motrices, et encore plus si c'est la personne qui partage votre vie. Notre temps est limité. L'auteur aborde la question du temps. C'est pour lui la seule denrée qui n'est pas infinie, puisque nous savons avec certitude que nous mourrons un jour. À nous de savoir ce que nous voulons faire du temps que nous passons sur Terre. Il estime que si vous passez votre temps à ne rien faire devant votre télévision ou à faire des économies de bout de chandelle, c'est que vous n'accordez pas beaucoup de valeur au temps ou que vous vous croyez immortel. Puisque notre temps est limité, utilisons le mieux. Dans une journée, nous avons tous 24 heures, que nous soyons riches ou pauvres. Comment les utiliser ? En restant devant notre télé, en passant la journée devant Facebook, c'est du temps gaspillé. L'importance de l'éducation et de la culture. M.J. DeMarco estime que notre carburant personnel est la connaissance. Il pense que nous ne devons jamais cesser d'apprendre. Il conseille de ne pas s'arrêter à l'obtention d'un diplôme. Acquérir sans cesse de nouvelles connaissances est ce qui vous permettra de développer votre business. DeMarco s'énerve contre les personnes qui estiment ne pas avoir accès au savoir ou à la connaissance, sous prétexte qu'elles sont pauvres. Selon lui, de nos jours, nous n'avons aucune excuse. Il existe des bibliothèques en libre accès et gratuites, Internet, même certains documentaires à la télévision, plutôt que de regarder des inepties de télé-réalité. Tout est une question de volonté et de choix, et certains choisissent la facilité. C'est en effet plus simple de végéter devant une émission de télé-réalité que d'ouvrir un livre ou d'aller jusqu'à la bibliothèque. Si vous souhaitez acquérir des connaissances, tous les moyens sont bons. Librairie, Internet, télé, blogs, séminaires, conférences gratuites, podcasts. Il conseille de rentabiliser votre temps. Écoutez un podcast pendant un trajet en voiture, en faisant vos courses, votre ménage ou votre jogging. Lisez dans les salles d'attente ou dans les transports plutôt que de regarder Facebook sur votre smartphone. L'auteur fixe d'ailleurs un objectif minimum de 12 livres à lire par an. Engagez-vous. Pour créer une entreprise qui fonctionne, l'auteur vous conseille de faire la distinction entre l'intérêt et l'engagement. Si vous êtes intéressé, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez vous engager corps et âme. La plupart des personnes se contentent d'une zone intermédiaire, calme et sécurisante. Mais pour l'auteur, si vous souhaitez être au top, vous devez être prêt à sacrifier le confort de votre vie quotidienne au départ. Vivre dans un endroit plus petit, vous serrer la ceinture, ne pas partir en vacances, travailler 7 jours sur 7, jusqu'à ce que vos efforts paient. L'auteur vous invite à ne plus avoir peur de l'échec, car il existe. Mais apprendre de vos échecs vous rendra plus fort et plus performant. Il faut cesser de se lamenter et analyser les raisons qui ont conduit à cet échec. Trouvez les raisons, changez-les et recommencez. Il nuance toutefois son propos sur le risque. S'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, il ne faut pas en prendre qui sont stupides ou dangereux. Enfin, il vous conseille de ne pas attendre le bon moment pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale. Parce que le bon moment n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose qui vous retiendra. Un bébé qui arrive, des études à financer, une maison à rénover. Le bon moment ne sonnera jamais à votre porte. C'est à vous de le provoquer ou de le saisir. Le timing n'est jamais celui qu'on croit. Mais si vous laissez passer l'occasion, elle ne repassera pas une seconde fois et elle sera saisie par quelqu'un d'autre. Les 5 règles pour créer un business qui cartonne. Pour DeMarco, il existe 5 manières de générer un impact suffisamment fort pour attirer des millions de clients et donc des millions de dollars. Première règle, répondez à un vrai besoin. Selon DeMarco, 90% des entreprises qui ne satisfont pas un besoin font faillite. Le besoin, c'est celui des autres, pas le vôtre. Ce n'est pas parce que vous adorez le crochet ou le point de croix que vous pouvez monter une entreprise pour vendre vos créations, parce que personne n'a véritablement besoin d'un apron au crochet. Vous ne devez donc pas satisfaire un besoin égoïste, mais plutôt vous mettre à la place des autres et vous demander ce dont ils ont réellement besoin. Que pouvez-vous faire pour eux? Comment pouvez-vous leur faciliter la vie? Quelle solution au problème X pouvez-vous leur apporter? Deuxième règle, lancez-vous sur un marché avec des barrières à l'entrée. Selon l'auteur, il faut au préalable savoir si tout le monde peut s'engouffrer sur cette route ou seulement quelques-uns. En effet, plus la route est facile à emprunter, plus il y aura de monde. Plus il y a de monde, plus il y a de concurrence et plus vous devez partager le marché. Vous gagnez donc moins d'argent. Il prend l'exemple du marketing de réseau ou des blogs. Au départ, ils étaient peu nombreux à développer ce business. Par conséquent, ils gagnaient bien leur vie. Mais comme beaucoup de monde a commencé à s'emparer de ce marché, l'argent a été plus difficile, voire impossible à trouver pour les autres. La seule chance de percer sur ce genre de marché est d'être particulièrement excellent dans son domaine. Cela dit, il rappelle que pour créer un business qui marche, il ne suffit pas de commander un kit à 150 euros, comme c'est souvent le cas dans le marketing de réseau. Pour que les affaires marchent, il faut passer par un processus de création et avoir le contrôle. Les seuls qui deviennent riches dans ce système sont ceux qui sont à l'origine de sa création. Il image ceci par un dicton américain très parlant. « Dans la rue et vers l'or, ne cherchez pas de l'or, vendez les pelles. » Pour résumer, si tout le monde a la capacité de faire un business, ne le faites pas. Troisième règle, ayez le contrôle. DeMarco conseille de créer une entreprise sur laquelle vous puissiez avoir le contrôle total, de la création à la production, en passant par les finances et la promotion. Vous devez être le franchiseur et non le franchisé, par exemple. Vous devez être le créateur d'un marketing de réseau et non y adhérer. C'est ce qui fera la différence entre gagner un peu d'argent et en gagner beaucoup. Car si vous n'avez pas le contrôle total, celui qui l'a peut faire cesser son activité à tout moment, et là, votre business s'écroulera. Quatrième règle, voyez grand. Si le marché est à l'échelle d'une ville, votre potentiel est restreint. Tant que votre business reste local, vous ne pouvez en tirer qu'une aisance modeste. Pour que votre fortune explose, votre marché doit être mondial. Par exemple, si vous vendez des chaussures, mieux vaut les vendre sur Internet, car le marché est mondial, plutôt que dans une boutique d'une ville de 10 000 habitants. Cinquième règle, ne vendez pas votre temps. Automatisation. Votre business doit générer des revenus passifs. Si le revenu généré est basé sur le temps passé, alors cela revient à une situation de salarié. Le but n'est pas de travailler 80 heures par semaine pendant 40 ans pour que votre entreprise fonctionne. Le but est de travailler 90 heures par semaine pendant 3, 4 ou 5 ans, le temps que votre boîte décolle, mais ensuite, elle doit générer des revenus sans vous. Il donne comme exemple une de ses connaissances qui a créé un salon de thé littéraire, car elle était passionnée par la littérature et le thé. Elle bossait plus de 80 heures par semaine et 7 jours sur 7 pour que son salon soit ouvert tous les jours pour les clients. Son salon tournait, mais si elle voulait prendre du repos, elle devait engager des gens et donc payer des charges, ce qui entamait ainsi son bénéfice. Si elle n'était pas aux commandes, l'argent ne pouvait pas tomber. Au bout de 3 ans, épuisée, elle a tout vendu et est retournée travailler comme salariée pour un revenu moins important, mais aussi moins de travail. En conclusion, faire ce qui vous passionne n'est donc pas un gage de réussite et il faut toujours détacher la notion de temps travaillé avec celle d'argent généré. Prenez l'autoroute vers votre richesse. Il poursuit l'analogie avec les voitures. Si vous souhaitez vous déplacer rapidement dans le pays, vous prendrez l'autoroute et non les routes de campagne. Selon lui, il existe 3 grands secteurs qui conduisent rapidement à la richesse. Internet, l'innovation, l'itération conventionnelle. Premièrement, Internet offre une route relativement simple. Comme il n'y a pas de frontières, vous touchez des millions de gens à travers le monde facilement. Internet répond à 4 des 5 points essentiels. Le besoin, la grande échelle, l'automatisation et le contrôle. Les modèles de business utilisant Internet peuvent être un abonnement en échange d'une information, du contenu pour lequel les gens vont payer, un comparateur de prix ou de services, voyages, assurances, banques, les réseaux sociaux, le courtage qui va mettre en relation des acheteurs et des vendeurs, la publicité, des marques P pour apparaître sur un site, le commerce électronique, comme Amazon par exemple. Deuxième secteur, l'innovation consiste à inventer et vendre un produit ou un service qui n'existe pas ou qui existe mais que vous améliorez. Troisième secteur, l'itération conventionnelle consiste à reproduire un processus à plusieurs reprises dans l'intention de se rapprocher d'un objectif défini. Ce sera par exemple acheter un bien immobilier ancien, le rénover et le revendre avec une plus-value. Cette plus-value seule ne vous rendra pas millionnaire, mais si vous répétez le processus X fois, vous vous rapprocherez de l'objectif du million. La bonne idée. MJ DeMarco souligne que le plus difficile est souvent de trouver la bonne idée. Mais selon lui, à force d'entraînement, on s'aperçoit que les opportunités sont partout. Il suffit d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles et d'observer quels besoins ou quels services n'ont pas été satisfaits ou l'ont mal été. Il n'est pas nécessaire d'avoir une idée de génie pour faire fortune. Il suffit parfois de reprendre une idée existante, de l'améliorer et de la vendre à plus de monde. Il cite Google. Les moteurs de recherche existaient déjà, Yahoo par exemple. Mais les fondateurs de Google ont créé un moteur de recherche plus performant, plus plaisant, qu'ils ont diffusé en masse. Ce qui a fait de Google le leader mondial des moteurs de recherche, alors même que ses créateurs n'ont pas inventé le concept. C'est aussi le cas pour McDonald's ou Starbucks. Les fondateurs n'ont inventé ni les hamburgers ni le café, mais ils ont créé un concept autour et une manière de vendre le produit qui n'existait pas auparavant. DeMarco vous conseille de noter les phrases commençant par « ça me frustre de », « je déteste faire », « j'aimerais tellement que ce soit plus simple de ». Ce sont des idées de business en puissance. Fixez votre objectif. L'auteur donne plusieurs conseils différents. Le premier est que la liberté a un prix et qu'il faut le calculer. Cela vous permettra de déterminer la somme dont vous auriez besoin mensuellement pour vivre comme vous en rêvez. Nos rêves sont différents. Certains voudront une villa de rêve et 4 voitures de luxe dans le garage et des voyages au bout du monde, quand d'autres rêveront de partir dans un pays pauvre fonder un orphelinat. Autre conseil, l'auteur insiste sur l'importance de savoir gérer votre argent. Si vous n'avez aucune compétence en matière financière, vous ne pourrez pas gérer avec efficacité une entreprise. Vous serez contraint de vous en remettre entièrement à un comptable. Mais si vous ne savez pas de quoi il parle, comment allez-vous pouvoir vérifier qu'il fait correctement son travail ? Vous ne pourrez pas juger de la pertinence de ses conseils et cela peut s'avérer dangereux. Il donne pour exemple ses stars ruinées, comme Nicolas Cage, car elles ont été abusées par leurs conseillers financiers. Nicolas Cage a perdu 40 millions de dollars en les confiant à un mauvais gestionnaire. Or, avec quelques connaissances de base, il aurait été possible de voir que quelque chose n'allait pas dans la gestion de ses finances. Lancez-vous concrètement. Aux yeux de l'auteur, un business plan ne vaut pas grand-chose, tant que vous n'avez pas mis en œuvre vos idées. Le business plan n'est rien d'autre qu'un projet chiffré sur le papier, comme on en voit passer des milliers. Les investisseurs passeront peut-être complètement à côté du potentiel de votre projet. En revanche, si vous arrivez avec un business plan et une preuve concrète que ça marche, vous aurez plus de chances d'être financé. Si étudiant, Mark Zuckerberg était allé voir les banques en leur exposant son projet, elles lui auraient probablement rayonné. C'est parce qu'il a d'abord mis en œuvre son idée et réuni plusieurs milliers d'utilisateurs qu'on l'a pris au sérieux par la suite. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas faire d'analyse financière. Cela signifie juste que vous devez consacrer plus de temps à la mise en œuvre concrète qu'à l'analyse sur le papier. Soyez attentif aux critiques de vos clients. DeMarco explique que son bien le plus précieux pour développer son entreprise est un petit livre noir sur lequel il note toutes les réclamations et critiques clients. Pour lui, elles ne doivent pas être balayées d'un revers de main. Au contraire, elles vous montrent les pistes d'amélioration. Il existe 3 sortes de critiques. Premièrement, les critiques liées à une modification. Vous pensiez améliorer en changeant quelque chose, mais devant le mécontentement des clients, mieux vaut parfois revenir en arrière. Deuxièmement, les critiques liées à la déception d'un besoin ou d'une attente d'un client. Là encore, il est important de les prendre en compte, car cela signifie que vous devez soit améliorer votre service, soit répondre différemment aux besoins des clients. Troisièmement, les critiques liées à un manque de produits ou de services. Ici aussi, c'est crucial, car cela vous offre sur un plateau de nouvelles pistes de business. Le client manifeste un besoin qui n'est pas satisfait, or un besoin non satisfait est un business potentiel. Vous devez garder à l'esprit que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. C'est humainement impossible. Mais vous devez essayer d'améliorer les points qui reviennent le plus fréquemment et qui vous semblent pertinents. De plus, vous pouvez vous démarquer avec un service client irréprochable et efficace. L'auteur souligne en effet que nous sommes habitués à un service client très médiocre. En se positionnant autrement, on se démarque. Les clients satisfaits deviendront alors votre meilleure publicité, car le bouche à oreille positif est la meilleure publicité du monde, efficace et gratuite. Entourez-vous des bonnes personnes. DeMarco donne un conseil important. Ne vous associez pas avec n'importe qui dans la création de votre société. Il fait l'analogie avec le mariage. Les premiers temps, c'est la passion et l'excitation des débuts. Mais ensuite, il faut quelque chose de plus solide, de plus profond, pour que la relation passe l'épreuve du temps. C'est la même chose en affaires avec un associé. Vous devez vous assurer que vous partagez la même éthique et la même vision des choses quant au business. Vous devez également vous faire une confiance pleine et entière. D'autre part, il juge tout aussi important de s'entourer de bons comptables et avocats. C'est primordial car ils gèrent une partie essentielle de l'entreprise. S'ils sont malhonnêtes, ils peuvent faire couler votre affaire. Rappelez-vous Nicolas Cage. DeMarco cite un ancien président des États-Unis qui disait « Faites confiance mais vérifiez ». Il ne faut pas faire une confiance aveugle à vos collaborateurs. Les gens doivent d'abord faire leurs preuves. Ils se défendent d'être cyniques et ils parlent plutôt d'expérience. Enfin, vos employés devront refléter l'état d'esprit que vous voulez donner à votre entreprise. Ils sont essentiels, car ils sont en première ligne avec les clients, et ce sont eux qui véhiculent la première impression. Un client aura beau loger dans l'hôtel le plus luxueux du monde, il aura une image négative de l'établissement si le personnel est exécrable avec lui. Sortez du lot. Certains produits sont uniformisés. Leur différence réside alors dans le prix. Pour éviter cela, vous devez impérativement vous démarquer. Vous devez chercher à satisfaire le besoin des autres, pas le vôtre. Pour vous différencier, ne regardez pas la concurrence. Regardez plutôt votre affaire en vous demandant comment l'améliorer. Il écrit « Oubliez la concurrence 95% du temps et les 5% restants, exploitez leurs faiblesses. Plutôt que de regarder ce qui marche chez les autres et comment faire pareil, regardez plutôt ce qui ne fonctionne pas et faites autrement. » Créez un univers, pas seulement une entreprise. DeMarco estime que le marketing est primordial. Vous pouvez avoir un produit nul, mais si vous savez le vendre, il se vendra. Vous pourrez survivre, mais vous ne serez probablement pas millionnaire grâce à lui. Pour aller plus loin, il ne suffit pas d'avoir un business, mais il faut créer une marque. C'est ce qui fait toute la différence et qui rendra les gens fidèles à vos produits. Il n'y a qu'à voir Coca ou Apple. Pour vous différencier, vous devez créer quelque chose d'unique qui vous fera sortir du lot. Selon DeMarco, il faut crier plus fort que tout le monde. Il présente 4 manières pour que votre message se fasse entendre parmi la foule. Numéro 1. Faites parler de vous, en véhiculant des messages tranchés, quitte à faire polémique. Ainsi, vous susciterez soit la haine, soit l'adoration, mais dans les deux cas, on parlera de vous. Numéro 2, soyez sexy. Il écrit, le sexe fait vendre. Numéro 3, donnez de l'émotion. Prenez l'exemple de la Lamborghini. On l'achète non pas pour se déplacer de Lyon à Marseille, mais bien parce qu'elle procure des émotions à celui qui la conduit. Pour que les gens achètent, vous devez les faire rire, pleurer, rêver ou s'indigner, mais vous ne devez pas les laisser indifférents. Numéro 4, soyez interactif. Les gens adorent avoir le sentiment qu'ils font partie de votre aventure. C'est d'ailleurs, selon lui, la raison du succès des réseaux sociaux. On like, on partage, on a le sentiment d'avoir un rôle et le pouvoir de se faire entendre. Soyez fidèle et focus. L'auteur conseille de ne pas s'éparpiller. Il est contre-productif d'avoir 5 produits ou entreprises différents. Cela dilue votre énergie et votre attention et, du même coup, vos chances de réussite. Mieux vaut vous concentrer sur un business et le faire à fond et du mieux possible. Les points clés. Numéro 1. La richesse n'est pas le fruit du hasard. Tout est une question de travail et de volonté. Numéro 2. La voie lente n'est pas la bonne. Vous devez changer votre vision des choses. Numéro 3. Déterminez la somme dont vous auriez besoin chaque mois pour vivre libre. Numéro 4. C'est en augmentant la valeur de vos revenus et de vos actifs que vous deviendrez riche, non en réduisant vos dépenses. Numéro 5. Arrêtez le salariat et créez votre société. Numéro 6. Entraînez-vous à repérer les besoins non satisfaits ou mal satisfaits. Donnez aux gens ce dont ils ont besoin, résolvez leurs problèmes. Numéro 7. C'est l'effet de levier qui génère la richesse. Créez un business sur lequel vous avez la main et dont vous contrôlez la création de revenus. Numéro 8. Ne confondez pas passion personnelle et business. Si vous rêvez de passer votre vie à faire du surf, vous devez créer une entreprise qui vous permettra de passer vos journées sur la plage à surfer dans 5 ans, pendant que l'argent tombera tout seul. Mais ne montez pas une école de surf. Numéro 9. Vendez votre entreprise quand il est encore temps, avant qu'elle ne perde de sa valeur ou n'intéresse plus les gens. Numéro 10. Apprenez, encore et toujours. Allez à la bibliothèque, regardez des documentaires, écoutez des podcasts.